Voix Nues. Toute cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Dick Annegarn. Ce soir, portrait en chanson.
Dick Annegarn, bonsoir.
Bonsoir.
Dick Annegarn, auteur, compositeur, très attaché à l'oralité. Vous, le Hollandais, devenu Gascon d'adoption, vous êtes l'auteur d'une œuvre de 22 albums. On pourrait presque faire des phrases, hein, rien qu'avec les titres de disques. Je ne sais pas si vous aviez essayé.
Non.
Regardez, écoutez. Adieu verdure, sacré géranium polymorphe, plouc, frère, citoyen, approche-toi du soleil, du soir, de ce spectacle, ici sur terre.
C'est du country blues.
Pour même aller plus loin, Mireille va à vélo pour le grand dîner et les chansons fleuves.
C'est pas mal.
Et là, on a la discographie quasi complète.
Là, on est dans du Jacques Tati, un peu Magritte.
Voilà, c'est le bout à bout. Ouais. Dans votre disque, Dick Annegarn, dans le disque Vélova, vous chantiez « Je cherche une chanson à mon image ». Est-ce que votre discographie serait une sorte de portrait en mouvement ?
Ouais, mouvement. Plus que portrait, parce que quand je fais une dédicace, je rajoute l'année. D'ailleurs, c'est ça aussi qui me sépare des anciens combattants de Bruxelles. C'est que je n'ai pas progressé que de mai 68 en juin 68. J'ai essayé de tous les ans rajouter, on va dire, une nouvelle émancipation, une nouvelle... Même Bowie, à la fin, il s'approchait de compositeurs de jazz. J'ai des projets là, de musique classique, je ne sais pas écrire la musique. Donc, je n'ai pas fini de progresser. J'essaye tous les ans. Donc, portrait, le problème avec un portrait, c'est que c'est inerte. C'est une photo, c'est une station.
C'est ce que sont les disques. C'est un moment, on fige.
C'est des périodes, oui. Pourquoi les peintres, ils auraient droit à la période rose, la période bleue, et nous, c'est juste un amas de titres. Non, même sans que ce soit des concept albums, il y a des couleurs. On peut lire les années dans lesquelles ça a été produit. Quand on écoute les productions, on entend aussi l'enregistrement, la qualité de l'enregistrement, les échos à la mode. Moi, c'est pas trop ça, à mon avis, qui me permet d'être en mouvement. Ce qui me permet d'être en mouvement, en effet, c'est le voyage. Et c'est aussi les sujets que j'aborde. En l'occurrence, cette chanson-là, je cherche une chanson, je l'avais pas écrite pour moi. Vous ne connaissez pas mon côté vulgaire, c'est que j'ai écrit pour Johnny. J'ai refusé d'écrire pour Dick Rivers. J'ai même refusé d'écrire pour TFN, ce qui était pas si vulgaire que ça, mais on n'était pas dedans. Donc, je suis un autre, mais ce que je veux. Hein, donc je ne me prête pas. J'écris pour Raphaël, j'ai écrit pour Calogero. Mais là, je cherche une chanson, je l'écris, c'est pire que ça. Je l'ai écrit pour Amandine Bourgeois, qui était une fille qui a gagné Starac.
Oui, enfin,
et donc,
on va dire un télécrochet.
Voilà, un télécrochet. Mais c'est marrant parce que je suis né dans les télécrochets. Quand j'avais 16 ans, je chantais du Lead Belly, du folk, dans des télécrochets belges où, évidemment, on a été viré quasiment dès qu'on a apparu, parce qu'on avait des grands cheveux et les guitaristes étaient cochises. Là, on était un peu dans la mythologie folk, pop, etc. Et un peu crasse-pingue aussi. Donc, on s'est fait un peu éjecter. Mais le radio-crochet, pour moi, et aujourd'hui, mon dernier spectacle s'appelle Twist. Donc c'est un costume, et donc là j'avais pris le costume d'Amandine Bourgeois. Je cherche une chanson, ce qui est le propre de ces gens qui chantent que les Golden Hits, qui sont que dans les rengaines américaines ou françaises pour se faire la voix dans un concours vocal. Donc je cherche une chanson. Oui, elle c'était mon directeur artistique qui dit elle cherche des chansons. Donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle Je cherche une chanson. Mais voilà, c'est des emprunts, un peu ce que je disais aussi, c'est que c'est des jeux. Il y a des jeux d'arcade. Donc il y a des caves, on fait des énigmes. Il faut deviner un peu. C'est pas moi qui. Oui, enfin je cherche une chanson. Je ne cherche pas à écrire. C'est quand on me fait une commande que je cherche à écrire. Mais sinon. Je m'écoute au réveil et y a des choses qui sont dans ma tête, qui sont pas de l'ordre de l'écriture, qui sont de l'ordre de quelques notes, quelques bons. Et il y a aussi des sujets que je choisis par contre là. Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, j'ai beaucoup bouquiné, je continue à bouquiner parce que c'est le sujet aussi de quelque chose de plus important que je vais faire.
C'est un texte, l'épopée de Gilgamesh, qui a été traduite en français, pas un chanteur d'origine syrienne, Abed Azriye.
Abed Azriye, qui lui chante d'une façon très sombre. Ouais, bon, je donne un peu plus d'éclat, quand même, une espèce de, c'était la première vedette, Gilgamesh, et Enkidu était la version, moi je dis c'était Johnny et Julien Clerc, quoi, c'était des demi-dieux, des idoles, liés à une ville, hein, bon. Johnny aurait pu être le Gilgamesh de Bruxelles avec un ziggurat à son honneur. Donc voilà, c'est des chansons aussi, c'est des épopées. C'est quand même l'histoire. La chanson commence, probablement l'histoire commence à Sumer, mais l'histoire de la chanson est plus vieille. Probablement que les bardes d'Arata ou d'autres villes, d'autres cultures un peu plus difficiles à comprendre parce qu'il n'y avait pas d'écriture. C'est les Sumériens qui ont inventé l'écriture, mais les chants existaient probablement avant. Donc, je c'est des sujets, voilà, que j'aime bien. Et puis j'aime bien dire que Jésus était arabe et que c'est les Arabes qui ont inventé l'écriture aussi. Ça, j'aime bien dire ça.
Il était juif.
Il était juif palestinien.
Voilà.
Bon, et Gilgamesh était un Johnny irakien, voilà. Donc ou mésopotamien ou babylonien, et donc voilà, c'est des sujets que je choisis, mais j'ai aussi choisi Dionysos qui est un dieu de l'ivresse, qui était pas un dieu au départ, qui était un prétexte à l'ivresse. Donc je cherche de la Brassens, c'était plutôt dans la mythologie grecque d'ailleurs. Moi, j'ai choisi un dieu qui n'était pas dieu, qui était un demi-dieu. J'aime bien les demi-dieux. Bon, et donc, par ailleurs, j'emprunte un peu au folk, je crée des personnages moi-même, mais c'est des sujets que je me donne. Chaque chanson est un objet d'étude.
Alors, je reviens au disque, à ces choses qui sont figées, ces enregistrements. Mais vous avez évoqué tout à l'heure la peinture. Les peintres peuvent, s'ils le souhaitent, retoucher leurs tableaux, même quand ils ne leur appartiennent plus. Vous, c'est encore mieux. Vous pouvez retoucher vos chansons à volonté, tant que vous le souhaitez, en concert, puisque voilà, l'enregistrement est fige, mais les chansons, vous pouvez très bien les faire évoluer au gré de vos envies, dit Canegarde.
Non, le public est beaucoup plus psychorigide que vous. On me demande de repeindre le même tableau Bruxelles 40 ans après avec la même couleur, avec la même voix, avec le même violon. Et ça évidemment, c'est pas possible. Hein. Donc le public demande. Je veux dire, j'ai fait la critique enfin, on pense que j'ai fait la critique du showbiz. Hein. Mais le public en fait partie. Le public est bourgeois, demande qu'on exploite les valeurs sûres. Donc ce qu'on connaît, c'est bien. Ce qu'on connaît pas ou une version réinterprété n'est pas accepté par le public, ou très difficilement. Là, je vais chanter à Bruxelles dans 2 mois, une version de Bruxelles. Mon producteur et mon public m'ont déjà dit qu'il n'est pas question que je fasse Bruxelles en twist. Twist, c'est ma dernière interprétation de Bruxelles. Je demande au public de taper en twist. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris. Donc j'ai une légèreté twist toute belge, après tout, qui est ma version actuelle. Mais le public, ça coince un peu, hein. Le public, pour eux, il faut que je pleure comme ma première version, où je pleurais réellement, parce que c'est la première fois que j'entendais des violons sur mon titre. Donc vraiment, je m'effondrais, je chante même un peu faux. Bruxelles, ma belle, je m'évanouis en chantant. Mais ça, je peux pas m'évanouir pendant 40 ans, la même façon, pour faire plaisir au public. Donc, il y en a qui acceptent une réinterprétation, il y en a qui sont complètement hermétiques à tout revisitage, je ne sais pas comment ça se dit, revisiting.
Mais le public, dit Canegarde, il peut aussi réinterpréter différemment une de vos chansons. Bruxelles, vous l'avez chantée il y a très longtemps, mais peu de temps après les attentats de Bruxelles, cette chanson est revenue, comme si elle parlait de ce qui venait d'arriver, alors qu'elle était très largement antérieure au fait.
Oui, mais c'est une chanson de violence, c'est une chanson de crise. La guerre qui est toujours à faire, je crains que ce soit une chanson durable. À l'époque, c'était la bande à Bader, c'était les tueurs de Brabant, c'est les attentats de Bologne, c'était d'autres violences, d'autres crises. Donc, d'ailleurs, sur mon dernier album, j'ai écrit Tranquille, une chanson que je l'écris pendant les attentats. j'écris une chanson qui s'appelle Tranquille. Donc c'est une espèce de résistance, une espèce de refus de l'urgence, quoi, un refus de la terreur aussi. Et bon, Mao sait que les gauchistes ont aussi été responsables d'autres violences. Donc Bruxelles était une chanson par rapport à ça, par rapport aux khméristes, aux soviétistes, à d'autres violents.
Dick Engarn, j'imagine que vous avez vos préférences entre certains albums. Vous citez régulièrement Soleil du Soir, c'est un disque que vous avez enregistré en 2008 à New York. Mais par exemple, un disque un peu antécédent, Plouc, je crois que vous ne l'aimez pas trop, vous en avez presque honte.
Ça devait s'appeler Art Breu. J'avais un concept, je regardais un peu Arte, et donc Art Brut, je voulais faire mon art à moi, je dis je vais créer un style. Arbre, A-R-B-R, arbre. Dis bon, ça veut trop rien dire. Et donc j'avais un peu peur. Finalement, je l'ai abandonné parce que le son était pas bon. Je l'avais enregistré à Toulouse dans un studio, bon, pas cher. Le son était pas bon. Finalement, on comprenait rien à mon titre. Enfin, on fait quand même d'abord, on fait notre propre jeu critique aussi, hein, quand même. Donc, je trouvais que le titre était obscur, et ça tenait pas la route. Je m'en rappelle plus les titres de l'album. C'est quand il neige que je la vois encore venir à moi. C'est un album très écrit. Le dernier aussi. Je perçois. Une chanson, c'est ce qu'on disait, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et quand on a tout oublié, je retiens peut-être le titre, maintenant, Plouc, qui est honnête, parce que j'ai voulu donner un titre moche à un disque moche, avec une pochette moche. Donc je l'appelais Plouc. Je trouvais que c'était honnête de l'appeler ce qu'il était. C'est un disque de Plouc que j'ai enregistré à la campagne, voilà. Il y a même un truc de fanfare là-dedans, enfin un truc qui accordon, une chanson qui a été faite avec mon chef d'orchestre avec lequel je travaille toujours. Je travaille avec des cuivres. J'ai travaillé pendant 8 ans avec des cuivres gascons pour faire un peu madrigal. Je voulais que ce soit vibrant et madrigal. Et puis je suis resté avec un produit un peu plouc, oui.
Et puis d'autant que vous avez par ailleurs un intérêt pour la tradition des orphéons.
Oui.
Dick Engarn.
Oui.
Vous avez connu.
Bien travaillé, Mathieu, hein, c'est bien.
Vous avez connu différentes maisons de disques, Dick Engarn, oui. Différentes économies du disque, différentes façons d'enregistrer, hein, depuis la bande jusqu'au numérique. Est-ce que, au fond, la façon de travailler, pour vous, a beaucoup évolué?
Non, je n'écris pas de musique. Le solfège, je me fais assister ou par un ordinateur ou par un... Mais bon, j'étais branché Atari, j'ai même eu un truc, un clavier avec un petit rouleau qui imprimait les notes que je jouais sur le clavier. J'ai commencé comme ça, sur ma péniche, en 1978, 80, donc, oui, c'est ça. Quand, en 1980, j'avais déjà le premier clavier avec, qui faisait des partitions. Bon. Il y a Joseph Racaille qui travaille aussi, il y a même Thelonious Monk, il sait pas écrire la musique et il fait des compositions très, très subtiles. Donc, je n'ai aucun problème de ne pas savoir écrire. Les ordinateurs nous aident. Mais je me fais quand même aussi aider par d'autres musiciens pour les arrangements, même si j'en écris moi-même. Donc ça n'a pas changé. Les studios n'ont pas beaucoup changé non plus. Le multipiste, et à vrai dire, il faut pas se laisser manger par l'outil. Je veux dire, il faut que l'outil soit à mon service, mais pas moi au service de mon outil. Hein. Quand je regarde quand je regarde une guitare, d'abord je la regarde, je m'en approche, je la sens, je la tâte, je la caresse, je commence à gratter un peu les cordes pour savoir le grain et le rebondi, le pneumatisme de la corde avant de placer un doigt dessus. Vraiment pour l'appuyer, je veux dire, c'est des rapports sensuels par rapport au son, par rapport à la musique. Donc c'est pas l'outil qui m'amène vers la musique, c'est la musique qui m'amène vers l'outil. Et donc la musique, c'est d'abord dans ma tête, donc j'écris dans ma tête. J'essaye d'être suffisamment pas fatigué pour dormir et être réveillé en même temps. Et donc, c'est cet état de flottaison qui me donne. J'aime bien faire les siestes. Genre, de préférence en faire deux par jour, c'est bien. Et même si je dors pas tout à fait, c'est encore mieux. Donc, c'est une espèce d'ivresse, semi-sommeil dans lequel j'entends des choses, je finis une phrase ou je l'abandonne ou je travaille dans mon dictionnaire à 500 mots, j'en supprime, j'en rajoute, je les structure, voilà.
Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant, Dick Hanegarn, puisque vous dites je reprends des mots, je prolonge une conversation. Il se trouve qu'il y a des phénomènes d'écho ou de retour, par exemple, avec le mot et l'expression de la mécène. Dans La Transformation, c'est une chanson qu'on entendait dans votre premier album, hein, en 74, dans Sacré Généranium, il était question d'une mécène près de l'eau.
Est-ce que vous jouez au jeu d'arcade, Mathieu?
Oui, j'ai grandi avec.
Ah bah tiens, je l'entends, oui.
Donc on entendait « Près de l'eau, près de l'au-delà, près de l'eau de la fontaine, se trouve ma mécène que j'aime autant que les arbres et le vent. » Et des années plus tard, hein, plus de 30 ans après, dans le disque Twist, il y a cette chanson « Ma mécène, une femme qu'on m'en en fait plus. » Qu'est-ce que c'est que cette mécène qui revient?
Elle me vante. Elle me vante sa cuisine. C'est une femme idéale. C'est peut-être mon côté geste. C'est le fin amour. C'est la femme. Brel, il avait fait un film avec Barbara qui s'appelle France, où Barbara est à côté de lui et regarde une colombe. Il voit pas Barbara, il voit la colombe. Pour lui, l'amour, c'est la colombe, c'est la liberté, c'est l'envol, c'est la grâce, la courbe. Et à la limite, il voit pas la belle femme qui est à côté de lui, la vraie femme, avec sa vraie grain de peau, avec peut-être, bon, ses sous-vêtements, ses cheveux, ses parfums, il la voit pas. Il voit la femme idéale. Et donc, cette mécène, bah, c'est un peu Mireille aussi du petit conservatoire, c'est Audrey Azoulay, c'est...
Bah, Mireille, il faut préciser, c'est votre première apparition à la télévision.
C'est pas mon premier amour, c'était mon...
Ah oui.
Oui, enfin, allons-y, oui.
D'autant qu'on peut retrouver les images assez aisément grâce à Internet aujourd'hui. Mmh. On est encore dans la télévision en noir et blanc. Mais elle est assez dure avec vous.
Ah oui, non, Mireille. Mais ça c'est des rapports sadomaso. pas qu'avec moi. Elle avait des bottes du maréchal et puis, bon, elle faisait souffrir ces petites chanteuses de province. Oui, c'était une femme vraiment, vraiment instructive en même temps. Hein. Je veux dire, c'est une méthode que je respecte aujourd'hui. Elle dit dissuader les peureux. Je veux dire, quand on est timide, quand on transpire 3 litres avant de poser sa première note, faut pas faire ce métier. On a beau avoir une première voix, s'il faut être accompagné tout le temps par un psychologue, une masseuse et la drogue et tout ça pour combattre sa crainte, sa peur, il vaut mieux passer par Mireille. Là, on est guéri tout de suite.
Mais là, Dick Hanegarn, vous me parlez de parrains ou de marraines, de gens qui vous font progresser, mais est-ce qu'il y a eu des mécènes? Je reste sur ce mot, parce que par exemple vous avez écrit une chanson qui s'appelle Théo, donc on imagine que c'est une lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo, où il dit envoie-moi de l'argent pour que je puisse acheter des couleurs.
Oui.
Donc il est question de ce mécénat.
Oui. Oui, oui, non mais Catherine de Médicis et même, comment dire, je pense à Denise Glaser, qui sont des femmes, on se dit, t'as la clé de la porte vers les médias. Tu as la sensibilité, enfin, on la tutoie, cette mécène-là, parce qu'on voudrait être dans son intimité, on voudrait qu'elle nous emmène vers le Gotha des artistes, vers... Et puis, c'est vrai que je ne fais aucune confiance à la puissance publique pour soutenir les artistes. Les subventions sont très sclérosantes, sont très conditionnelles, sont injustes. Et donc, tant qu'à faire à être injuste, bah, autant en profiter d'une aristocrate ou même d'une entreprise. J'ai complètement adhéré à l'hyperréalisme. J'ai trouvé que c'était courageux de la part des industriels allemands de soutenir quand même le photoréalisme, l'hyperréalisme. Sont un art industriel, sont un art en tout cas qui ont été mécénés, donnés, soutenus par le capital. Hein. Et donc, voilà, le mécénat privé, du moins, est bien supérieur. Le jazz aussi, je pense à la veuve Panonica, qui était aussi une mécène, qui non seulement accueillait les artistes un peu abîmés, un peu en difficulté, un peu « shelter for the storm », il dit Dylan, un abri contre la tempête. Le mécénat privé, ça devrait être ça. Et allons un tout petit peu plus loin, les maisons de disques sont des mécènes. Ils perdent, je veux dire, il y a une grande erreur là-dessus. Quand je dis je quitte la compétition, c'est pas...
Alors c'était en 78, voilà. Vous avez 26 ans et vous annoncez, vous faites une grande conférence de presse avec un texte assez long, Dick Hagan.
La rock industrie et moi, oui.
Voilà, et vous expliquez que vous vous retirez de la compétition showbistique.
C'est ça. La rock industrie aussi, j'appelle ça. Et donc, c'est un tout petit peu contradictoire par rapport à ce que je viens de dire. Sauf que la différence entre le mécénat industriel autour des hyperréalistes et la rock industrie, c'est que la rock industrie, le public est complice d'une déportation, d'une soumission, d'un côté complètement fasciste. Le rock et le public sont amoureux des grands stades. Sont amoureux de la fascination, je pèse mes mots, du faisceau, du fascio lié à des vedettes qui ne créent plus, qui sont juste mises en lumière, qui sont hologrammables, qui sont reproductibles. Ça, c'est Warhol aussi qui a rendu ça ridicule. La culture pop est devenue une reproduction infernale, quoi. Enfin, est devenue. Et donc la mécène, pour moi, c'est une protection beaucoup plus près de l'âme de l'artiste. C'est quelqu'un de peut-être d'idéal, mais aussi concrètement, il vaut mieux, à mon avis, avoir une aide d'une personne ou deux que d'être soumis à des commissions, Bourges, tout ça, enfin les Starac, tout ça, c'est odieux, quoi. Je veux dire, et d'ailleurs, ce qui sort de là, c'est complètement arbitraire, évidemment, mais ce qui sort de là ne réussit rarement à avoir une crédibilité artistique. Ça chante bien, c'est des voix superbes. Mais ça raconte rien. Dylan est une voix moche, mais qui raconte beaucoup de choses. Donc, et Dylan, il me semble que c'était quand même un mécène, néerlandais d'ailleurs, le nom va me revenir, qui l'a aidé au début, parce que personne n'y croyait vraiment, c'était un folk singer comme un autre. Et donc c'est grâce à une assistance personnelle de quelqu'un, John Coltrane aussi, a eu, en tout cas un producteur, c'est un peu le côté ouvrier du mécénat. En tout cas, moi je remercie beaucoup les producteurs qui continuent à risquer leur argent sur moi et qui ont rarement un retour sur investissement.
Dick Hagan, puisque vous parlez de votre rapport à l'industrie du disque, je reviens une fois encore en arrière dans un vieux numéro de Rock et Folk. Le journaliste qui était allé vous voir plusieurs fois en concert depuis votre arrivée à Paris parlait d'un concert que vous aviez donné en 75 à la Fac Dauphine. Et il vous décrivait comme transformé. Le produit de Hollande élevé au lait, au beurre, ressemble aujourd'hui à un junkie. Et sa musique a changé, qui a définitivement aliéné cette fraîcheur tant appréciée au profit d'un trouble angoissé, énervé. Il y avait eu une transformation en vous, Dick Hagan, ou alors c'est le journaliste rock qui voulait voir en vous une forme de louride?
J'étais pas la cam, mais j'étais complètement transcendé, le mot est trop mystique. J'étais très politique en fait, j'étais très en colère. Et j'ai même, au centre américain, j'ai chanté en présence du directeur de Polydor, je l'ai su après, et j'ai dû le sentir, parce que je suis descendu de scène et j'ai chanté une chanson qui s'appelle Vengeance, où j'avais une rage folle. Oui, j'avais une rage folle, non seulement, et je peux le dire aujourd'hui parce que j'ai 64 ans et qu'il y a prescription, mais j'avais même des projets de faire exploser tout ce que je pouvais. J'étais dans une rage terrible.
Qu'est-ce qui vous mettait en colère?
La rock industrie. Les artistes qui contribuent à ça et le public qui contribue à ça.
C'est le moment où on vous a demandé de mettre une boucle d'oreille?
Par exemple. Une espèce de fantasmagorie, hippie, ridicule. Et le rock, les hippies sont responsables eux-mêmes de ce fascisme, et même, j'allais dire mes camarades entre guillemets, hein, camarades avec un K, qui verraient bien les kids les acclamer dans les stades. Je pense à Higelin ou à le forestier qui chantait le déserteur. Voici une chanson qui passe par la télé et la foule en délire l'acclame pour une chanson qui est même pas de lui. Et en plus, bon,
Boris Vian,
le déserteur, c'est pas un acte de bravoure formidable non plus. Je veux dire, y a pas de quoi.
Ça dépend du moment où vous la chantez.
Oui. Bon.
Si vous la chantez au moment de la guerre d'Algérie, ça a un sens.
Oui, mais là, il y avait quelques objecteurs de conscience, trotskistes, qui aient demandé toute l'adhésion à leur cause. C'était pas la cause la plus à défendre à l'époque. Ou Lavilliers, enfin, toute cette, comment dire, littérature démagogique, je la détestais autant que Claude François, que RTL, que les militaires qui avaient leur radio, enfin, qui continuent un peu. Enfin, je trouvais que c'était un ensemble quand même assez violent. Moi, je voulais répondre à la violence des sociétés militaro, spectaculo, je sais pas comment appeler ça, industrielles.
Paradoxalement, Dick Hanegarn, vous n'étiez pas considéré comme un chanteur engagé au même titre
non.
que Marc Augeret, par exemple,
voilà.
ou Léo Ferré.
Voilà. Léo Ferré est un fils de cocher de Monte Carlo qui est... Et voilà, enfin, je veux dire, il y a des lieux communs de la gauche que j'acceptais autant pas que Philippe Clay ou que Michel Sardou. Je trouvais que c'était du même ordre, quoi. C'est démagogique. Un artiste n'a pas à dire la vérité. Un artiste n'est pas un prêtre, n'est pas Moïse, n'est pas Mao. Je veux dire, un artiste a témoigné de sa vie d'artiste, pas de parler au nom d'une collectivité, du moins politique et même identitaire. J'avais une image beaucoup plus individualiste, une espèce d'honnêteté qu'il fallait dire. Mon deuxième album, c'est que ça. Frisoskénie, c'est-à-dire on est schizophrène en tant qu'artiste. On crée des personnages et après on les oublie. On est complètement malade, quoi. En fait, on est des handicapés sociaux. Mais il y a beaucoup d'handicapés sociaux qui sont pas artistes. Bon, mais donc il faut assumer une certaine mal, une certaine folie, une certaine maladie. Pas se la jouer vertueux, quoi. C'est odieux. Pourquoi un artiste il est plus vertueux, plus beau, plus amoureux, plus politique, plus juste qu'un autre. C'est détestable. Donc, du coup, il a une foule qui le suit, il devient le représentant, le grand frère de son public. Non, on n'a pas le droit de... Et à vrai dire, je me suis trouvé en danger parce que, comme j'avais écrit l'univers ou la transformation des chansons à connotation vaguement mystique, eh ben, tout de suite, j'avais des folles qui me suivaient, qui me demandaient la surface de Dieu, enfin, qui me demandaient des choses auxquelles je ne pouvais pas répondre. Et donc moi, j'ai refusé de répondre, j'ai pas répondu par des bondieuseries ou pour des mystiqueries à 3 balles. J'ai refusé quelques réponses à quelques questions que ce soit, c'est pas mon rôle.
On en restera là pour aujourd'hui. Merci Dick Hanegarn.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathieu Conquet avec Dick Hanegarn. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Hélène Langlois, réalisation Vincent Deck, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.